Alors tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux personnels, familiaux, de santé bien sûr, mais aussi de réussite dans toutes vos entreprises. On a pas mal d'entrepreneurs déjà, toute l'équipe opérationnelle de base hein, sont des entrepreneurs, que ce soit Oscar, Jérôme et Alexis. Voilà, on est bénis parce qu'en fait, on a une direction qui est ancrée dans le quotidien, dans le réel, dans l'entrepreneuriat. Et nous demandons au Seigneur de les bénir et je vous souhaite le meilleur pour vos réussites. Et aussi pour l'Église en tant que corps, hein, qui a souffert, je vais en parler un petit peu, que cette année soit une année de prospérité. Amen. Je veux donc m'adresser à ceux qui sont restés hein, en premier et qui veulent relever le défi de cette nouvelle année pour l'avancement du royaume de Dieu ici à Aubergenville. J'ai remarqué qu'Alexis a déjà pris ce thème. Hein, effectivement, que nous ne sommes pas là comme un club pour nous faire du bien entre nous, mais nous sommes là pour une mission. C'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples. Sinon, notre raison d'être n'est pas la bonne. Alors, je voudrais, dans ce matin, vous adresser, d'abord faire un constat, faire un bilan, des perspectives et des objectifs pour 2023. C'est mon rôle en tant que pasteur de la stratégie de vous donner cette perspective d'avenir pour vous donner un espoir et une espérance pour l'avenir. Alors, tout d'abord, le constat. Cette année a été très secouée. Et pourtant, le Seigneur était dans la barque avec nous, car c'est lui qui bâtit son Église. Le pasteur Georges Moody, que Julie connaît bien, aussi son frère, etc. Je ne sais pas dans quelle famille c'est un neveu, un cousin, était venu à l'improviste, pasteur anglican, et il s'est placé devant Dieu pour savoir ce qu'il devait nous dire. Il était très angoissé à nous apporter le message qu'il a reçu de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, c'est le Seigneur qui va bâtir l'Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'était son message. Et il a bien dit que c'est pour cette Église. Si nous sommes encore debout, en tant que corps, en tant qu'Église, c'est grâce à la fidélité de Dieu. Mais cela ne doit pas nous donner un sentiment de supériorité, parce que nous restons dans l'Église, mais plutôt d'humilité, de reconnaissance et de responsabilité. Nous allons d'ailleurs prendre nos responsabilités, le Seigneur m'a parlé, de faire une semaine de repentance, et j'ai constaté que tout le monde avait, disons, été perdu hein, dans cette année que nous avons été, à cause des malentendus. On peut appeler bavardage ou murmures, pour certains, de toutes sortes, qui ont circulé pour nous diviser. Rappelons-nous que Dieu nous avait prévenu que ça allait arriver, que de telles attaques allaient venir par une vision qui a été donnée à Michel le 5 novembre 2018. Et cette date est absolument capitale pour la suite, vous allez comprendre. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme vision, Michel, et qu'il a partagé largement avec l'Église? C'est qu'une femme se réclamait être la mère de 7 bavards. Michel est venu ici et il a vu une femme avec 7 bavards qui parlait à des tables. Il y avait 7 tables. Et les chrétiens qui étaient à la table, ils ne comprenaient rien, ils faisaient comme ça. Ils étaient là sous la subjugation de ce bavard. Chaque bavard prenait la parole. Et ils étaient assis, les bras ballants, paralysés, littéralement assis à leur table. Ces bavards étaient pilotés de l'extérieur, parce que Michel et Florence sont descendus, enfin, dans la vision, l'escalier. Et à la sortie, quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu un homme avec un talkie-walkie. Qui, quand Michel est apparu, il a dit, voilà la femme infâme, la femme infâme, et il attendait l'homme, donc moi, infâme, qui allait sortir. Et Michel et Florence ont vite pris autorité dans le nom de Jésus pour chasser, et l'homme a disparu. L'homme a disparu. Donc c'était bien un esprit. Et cette vision date d'il y a 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans. Et depuis, ces bavards, donc ce sont des démons, ont provoqué ces bavardages qui ont fait les dégâts que nous connaissons. Et les chrétiens tendaient les mains en guise d'incapacité à résister à ces murmures. C'est ce que nous avons constaté également durant ces 4 ans. Il est temps maintenant de resserrer les rangs autour du Seigneur et de fermer les portes à l'ennemi pour retrouver notre unité en Christ. Mais nous cherchons aussi à nous réconcilier avec ceux qui sont partis, qui sont victimes de cela aussi, et au minimum leur pardonner de n'avoir pas cherché à continuer à marcher avec nous, même si c'est difficile. Mais parfois, vous savez, quand on fait une course en montagne, parfois il faut aller jusqu'au sommet, et il faut prendre sur soi pour aller plus loin. Certains ne peuvent pas, donc ils restent au refuge, après ils peuvent remonter plus tard. Je suis comme vous, très malheureux de voir tous ces départs, sachant qu'aucun d'entre eux n'a accepté de me rencontrer avant de prendre leur décision. Personne, alors que je suis le pasteur. Maintenant, c'est Oscar. La moindre des choses aurait été de clarifier les malentendus et de mettre en lumière, en clarté, ce qui était supposé être un mensonge et qui n'était qu'un murmure, un bavardage. C'est pourtant une règle élémentaire de s'écouter, on le dit sans arrêt, mutuellement, pour bien se comprendre et se réconcilier. Cette absence de sagesse est étrange comme comportement, mais je sais que l'ennemi est derrière tout cela, on était prévenu. Toutefois, la Bible dit de nous comporter avec sagesse pour nous garder de la folie ou du délire. Premièrement, c'est capital pour garder l'unité, la sagesse. Deuxièmement, il faut la demander à Dieu, parce qu'elle n'est pas naturelle. Troisièmement, c'est une notion complexe, parce qu'elle est divine et humaine à la fois. Et quatrièmement, elle nécessite des regards croisés, parce qu'elle recouvre des réalités multiples. Le bilan. Durant cette année d'échec, nous avons tous manqué de sagesse. Tous. Même ceux qui auraient dû être des modèles de sagesse ont transgressé les règles élémentaires, certainement involontairement, mais entraînés par l'esprit de ce monde et par la chair. Du coup, nous avons aidé l'ennemi spirituel, ces bavards. Et par manque de sagesse, nous sommes tombés dans le piège que nous dénoncions par ailleurs. Il est vrai que la sagesse fait partie de ces comportements qu'on appelle paradoxaux. Paradoxal, ça veut dire que deux vérités sont vraies en même temps. Et qui intègre à la fois une attitude divine et une attitude humaine, toutes les deux vraies à la fois. Je m'explique. Le thème de la sagesse tient une place importante dans les livres de la Bible, puisqu'il y en a 66, et à côté de la Torah, donc je parle de l'Ancien Testament, qui sont les exigences de la loi, ou le Pentateuque, si vous voulez, et les livres prophétiques et historiques, etc., qui annoncent la venue du Messie, il y a au minimum 3 livres de sagesse, mais certains en voient 5 et d'autres en voient 7. Donc ça veut dire 7 livres entiers sur la sagesse, ce n'est pas rien dans la Bible. Je les cite, les Proverbes, l'Ecclésiaste, Job, les Psaumes, le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiastique et le livre de la sagesse de Salomon. Dans l'Ancien Testament, la sagesse, donc dans les Proverbes, qui est bien définie, elle est personnifiée par une femme sage, mais aussi par un édifice. Et dans Proverbe 9, il est dit que la sagesse est une maison à 7 colonnes, qui était à côté de Dieu quand il a créé l'univers. Donc là aussi, la sagesse n'est pas rien, puisqu'elle était à côté de Dieu quand il a créé l'univers. Elle s'oppose à une autre femme, toujours dans Proverbe 9, à la folie, qui s'appelle la folie, qui est personnifiée par une femme folle qui détruit tout, donc destructrice. Je rappelle ici que le chiffre 7, 7 colonnes, est celui de la perfection et de ce qui est complet. 7, c'est complet. Il est composé du chiffre 3, 3 plus 4, ça fait 7, hein, on est d'accord? Le chiffre 3, qui est celui de la totalité. 3, c'est totalité. Et du toujours, de ce qui est toujours, qui est permanent, qui est toujours, c'est 3. Le chiffre 4, c'est celui qui représente le cosmos, l'univers, la Terre, l'homme, le terrestre. Donc avec la sagesse, telle que définie dans la Bible, nous sommes dans une réalité qu'on appelle complexe, tissée ensemble, décrite par un paradoxe, où deux vérités sont vraies en même temps. La réalité parfaite de Dieu, le 3, et la réalité imparfaite du monde, le 4, le monde des hommes qui va être renouvelé, puisqu'il y a la rédemption, mais qui aujourd'hui est imparfait. Et les deux, 3 et 4, doivent cohabiter pour produire la sagesse. Tout à l'heure, Alexis a parlé de collaboration, c'est ça. Donc certes imparfaite, mais perfectible. La signification de cette 7 colonnes, c'est la maison de la sagesse, se trouve dans Éphésiens 4, 4. C'est dans Éphésiens, c'est Paul qui révèle ce que sont les 7 colonnes. Alors, je vais vous lire Éphésiens 4, 4, que vous avez aussi dans vos Bibles. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, le Fils, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. D'ailleurs, Julie a parlé de ça aussi. Toute. Alors, j'ai essayé de vous éclairer, de vous éclairer. Le Seigneur m'a révélé ça depuis pas mal d'années concernant la sagesse et j'en ai déjà parlé, donc c'est juste un rappel. La sagesse, qui est cette maison à 7 colonnes, qui renvoie à beaucoup de choses. Là, il faudrait que je fasse une université d'été pour reprendre tout ça, parce que ça va vous aider beaucoup dans votre vie, mais là, je vais très vite. La sagesse à 7 colonnes, elle est décrite dans Éphésiens 4:4. Ces colonnes dont il est question dans l'Ancien Testament et qui sont révélées dans le Nouveau. Alors, la première colonne, c'est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la première, c'est le Père qui est cité. Il est cité deux fois. D'abord le Père et ensuite après celui qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il y a le Fils et il y a l'Esprit. Donc ça, c'est les trois colonnes principales. Trois colonnes qui sont divines. Ensuite, il y a une autre colonne qui est celle de la foi. La foi, c'est nous qui devons l'exercer, la foi. Et de l'espérance. L'espérance qui nous permet de savoir où l'histoire va nous mener, qui donne du sens à notre vie. Bon, c'est ce qu'on appelle aussi l'eschatologie, c'est-à-dire ce que la Bible parle de la fin. Donc l'Apocalypse, etc. On sait comment tout ça va se terminer. Donc la foi, l'espérance. Et l'amour n'est pas mentionné dans les 7, mais elle fait partie du Père, parce que Dieu est amour. Ouais. Donc l'amour, en fait, ce qu'on appelle l'amour agapé, puisqu'il y a un amour aussi filio, un amour éros, l'amour agapé, c'est fait partie de l'existence de Dieu, de l'essence même de Dieu. Ensuite, il y a deux autres colonnes qui sont les extrémités, qui sont le baptême. Alors, ce n'est pas n'importe quel baptême, puisqu'il y a plusieurs baptêmes. On le sait, Paul en parle dans Hébreux, il y a plusieurs baptêmes, etc. Voilà. Et même des chrétiens qui n'étaient pas baptisés dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit en Christ, ils ont été rebaptisés. Donc, c'est toute la question du rebaptême, enfin, qui est reprochée aux évangéliques par rapport aux catholiques, etc. Mais il n'y a qu'un seul baptême, le baptême en Christ. C'est tout. Il n'y a qu'un seul baptême. Quand il est fait dans ce sens-là, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y en a pas deux. Ensuite, la dernière colonne, c'est le corps. Le corps de quoi? Le corps de Christ. Il n'y a qu'un seul corps. C'est pour ça, c'est un seul Fils, un seul Père, un seul Esprit, une seule foi, une seule espérance, un seul baptême, un seul corps. Vous voyez, c'est distinguer 7 choses différentes qui sont une qui s'appelle la sagesse. Et vous, c'est ça le complexe, la notion complexe, c'est que il y a plusieurs vérités, toutes ces vérités sont vraies, qui sont distinguables mais pas séparables. Il y a une seule chose, c'est la sagesse. Et donc, exprimer la sagesse, il faut qu'on soit dans l'expression de tout cela en même temps. C'est ça notre défi pour être sage dans la sagesse. Alors, il y en a trois qui sont divins, parfaits. Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est divin. Et les autres qui sont humains. La foi, l'espérance, le baptême et le corps, ça appartient à l'Église de le manifester. Donc vous voyez, déjà là, on a deux réalités qui sont à deux niveaux différents. Un divin parfait, l'autre humain imparfait, mais on peut aller vers la perfection. Cette sagesse, c'est la vie. C'est la vie. C'est quand ces sept éléments fonctionnent ensemble, déjà dans le Père, le Fils, il y a la vie, et l'amour se manifeste entre le Père et le Fils, etc. Et cette sagesse, c'est la vie. Alors que la folie, donc la femme, qui est aussi décrite dans Proverbe 9, la femme qui est la folie, c'est la mort. C'est la mort. Elle mène à la mort. Elle conduit à la mort. Alors comment est-ce qu'on peut la représenter? Eh bien, c'est ce que le Seigneur m'a révélé dans une vision le 5 octobre 1998 et le 5 novembre 2018, 20 ans après, un mois après, à Michel. Qui est l'esprit qui agit pour détruire l'Église? Pour détruire les Églises. Ce n'est pas uniquement la nôtre. Mais il se trouve qu'ici, particulièrement, cet esprit, Dieu nous l'a révélé, parce qu'il avait un droit au départ à l'intérieur et maintenant à l'extérieur. C'est pour ça que l'homme était à l'extérieur. Mais par contre, il pilotait des gens à l'intérieur. Et ça, la représentation, c'est ça. C'est les fameux sept chakras qui s'ouvrent, qui sont les chakras de la Kundalini. Kundalini, ça veut dire serpent levé. Et le serpent levé, c'est ce qui maintenant est enseigné partout dans le yoga, qui a été depuis une centaine d'années occidentalisé, c'est-à-dire Blavatsky et autres sont allés en Inde, ils l'ont ramené à l'occidental avec le troisième œil, etc., qui a fait des ravages en France, en particulier dans les années 1920. Et donc ça, c'est avec ça que je me suis battu en 98. Et qui est réapparu 20 ans après. En fait, ce sont les sept bavards. Les sept bavards qui ouvrent la conscience de soi, qui ouvrent à l'ego, qui ouvrent à l'égoïsme. C'est pour ça que l'Église, l'ennemi veut bien qu'elle existe, mais qu'elle soit centrée sur elle, que ce soit un club, que les gens soient sur eux, que les gens sentent les choses, que les gens soient exaltés par leur propre ego. Et ça, c'est la chair. Et rappelez-vous, on avait une réunion de jeûne et prière, il y a des nouveaux qui sont venus parmi nous, qui ont dit, mais vous êtes dans la chair. Et ils avaient raison, c'est la chair. L'ego, c'est la chair. Et l'ennemi, il aime attiser l'ego. Il veut que nous soyons dans l'ego, que nous oublions que nous avons une mission, que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour accomplir le dessein de Dieu et la mission que Christ a donnée à son Église, aller par tout le monde. Allez partout. Il n'a pas dit rester sur vos chaises pour me louer tous les dimanches. Vous devez me louer tous les jours. Donc ce n'est pas que les dimanches. Le dimanche, vous rassemblez pour regarder la croix ensemble, tous ensemble, pour repartir et être en mission. C'est ça. Et donc là, ça c'est la mort. L'expression d'être capté par cette puissance, c'est la mort. Et c'est pour ça aussi l'Église était en train de mourir, mais le Seigneur n'a pas permis. Maintenant, elle revive. Dieu a donné la sagesse. Je parle de la sagesse à Salomon. Parce qu'il le lui a demandé. Il a demandé, je veux la sagesse. Mais elle n'a pas duré dans le temps avec Salomon, vous le savez. Lui aussi a été repris par la chair. Et de même, Jacques nous demande également de demander la sagesse. Je vais lire Jacques 1, verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, Est-ce qu'il y en a parmi vous qui manquent de sagesse? Moi, le premier. Je manque de sagesse. Eh bien, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Comme Salomon, demandons-la à Dieu. Qui la lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il ne va pas nous reprocher de lui demander. Au contraire, il attend que ça. Par contre, le verset 6 donne les conditions. Il y a toujours des conditions, parce que nous sommes responsables de nos actes. La condition, il faut cependant qu'il la demande avec quoi ? Foi. Vous voyez, tout à l'heure, la sagesse, il y a la foi. La foi, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas celle de Dieu, c'est la foi. Sans quoi ? Sans douter. Le doute, et j'en ai parlé mercredi à la réunion de prière, j'ai fait un développement sur le doute. Le doute, c'est l'absence de risque. On ne veut pas de risque. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas de risque. OK ? Non, non. On veut un État tout puissant. On veut. Alors, on a de la chance en France, on a une couverture sociale extraordinaire et tout ça. Mais on veut plus. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas s'adresser à Dieu dans la prière. On ne veut pas venir dans l'Église pour prier. On veut que l'État pourvoie à notre bienfait, etc. Non. La foi, c'est prendre des risques. John Wimber le disait. Quand vous imposez les mains à quelqu'un, eh bien vous risquez que la personne ne soit pas guérie. Donc, si vous avez de l'orgueil en disant « Ah, moi, je suis un grand homme de Dieu, moi, j'impose les mains, elle est guérie », eh bien, ça ne marche pas. Parce que Dieu veut que la gloire lui soit rendue. Donc, il faut que vous le fassiez avec humilité. Donc, tout ça, on l'a appris il y a une quarantaine d'années avec John Wimber. Dans l'humilité la plus totale, c'est là que Dieu intervient parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Donc, la foi, il faut s'en douter. Il faut cependant qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. C'est clair. C'est clair. Si nous demandons et nous doutons en même temps, ben nous n'aurons rien du tout. Il faut demander, il faut des gens déterminés. C'est pour ça, ce matin, je veux parler des gens déterminés. Déterminés pour aller de l'avant. Déterminés pour relever l'Église. Déterminés pour dire, eh bien, c'est pas l'ennemi qui va gagner, c'est le Seigneur. Et avec moi, dans l'humilité, c'est-à-dire avec la croix. Et c'est pour ça que j'ai proposé une semaine de repentance, pour que nous puissions tous nous repentir. Et demander pardon. Pardon déjà de ne pas avoir demandé la sagesse et de ne pas l'avoir exercée. Cette sagesse qui, dans la nouvelle saison de l'Église, va se manifester, je l'espère, va nous aider à surmonter toutes les difficultés, parce qu'il y en aura d'autres, des difficultés. Nous, on en a eu, vous en aurez, parce que c'est le lot tant que l'ennemi ne sera pas... Dans le puits, il ne sera pas enchaîné. Donc les difficultés sont là. Les différends entre les frères et sœurs seront là. Et ils augmenteront parce que on n'est plus entre Français avec une seule culture. Il y a tout plein de cultures. Aujourd'hui, regardez le nombre de cultures qui est dans l'Église. Mais c'est la culture du royaume que nous devons accepter. Et laisser notre culture à nous. Eh bien, je peux vous dire, Michel et moi, on a une expérience de longue date que c'est très difficile. Les gens veulent garder leur culture. Ils veulent s'accrocher à leur culture au lieu de l'abandonner pour celle du royaume. C'est ça, une communauté d'amour. Ils étaient, acte 2, 42, tous ensemble, non pas dans leur culture, mais dans la culture du royaume. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient... Et bien manifester l'amour. Dans Éphésiens 4, 3, donc j'ai lu Éphésiens 4, 4, qui est l'expression des sept colonnes, mais juste un verset avant, voilà ce que Paul dit. Soyez toujours humbles, soyez toujours humbles, empreints de douceur et de zèle. Vous voyez, c'est encore contradictoire, douceur et zèle, ben, les deux sont des réalités qui doivent être manifestées. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Il n'a pas dit que c'est facile. il faut se supporter. Déjà, dans un mariage, il faut se supporter. Voilà. Mais supporter a deux sens. C'est, bon, OK, je ne comprends pas ni mon mari ni ma femme, mais je la supporte aussi en la soutenant. Vous voyez, c'est, voilà, c'est les deux. C'est, on est dans des choses complexes parce que nous sommes eh bien, dans le péché. Et donc, les choses ne sont pas parfaites. Mais c'est la vie. Efforcez-vous, je continue à lire la parole, efforcez-vous, efforcez-vous. On peut tous le dire, efforcez-vous. Efforcez-vous. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. De conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Moi, j'ai appris quelque chose il y a 20 ans par Ricardo, qui a dit, tu sais, André, l'unité, elle n'est pas à créer, elle existe. Tout le monde veut l'unité, l'unité des chrétiens, l'unité de ceci, l'unité de, entre les églises. Non, elle existe. Elle existe, ça c'est une révélation, il faut que vous ayez cette révélation. Elle existe, elle est donnée par Dieu. Sinon Dieu, c'est pas Dieu. Dieu a créé une église une et indivisible. Sauf que nous, on la divise. C'est nous qui la divisons. Donc il faut retrouver, il faut tout faire pour la retrouver. Il faut que nous, on fasse des concessions. Il faut que nous, on s'humilie. Il faut que nous, on soit souple pour accepter l'autre, etc. Supportez-vous. Et voilà, il faut conserver l'unité. Les deux dangers majeurs d'une Église, c'est les discordes et les fausses doctrines. Pour l'instant, on n'est pas tombé dans la fausse doctrine, mais on est tombé dans les discordes. Nous sommes tombés dans la discorde. Et par manque de sagesse, eh bien, nous n'avons pas réussi à conserver l'unité. Nous avons à nous repentir de cela. Et c'est pour ça que j'ai proposé la semaine de repentance. C'est la seule manière de retrouver l'unité, d'enlever tout l'opprobre et les offenses du passé. Alors, quelles sont les perspectives? Je vais vous faire rêver un petit peu, quand même. Parce que le passé, c'est le passé, et la nouvelle année a commencé. Donc, les perspectives sont que l'Église locale est composée de chrétiens qui s'engagent librement. L'Église locale, ici, des gens qui s'engagent librement à servir Dieu et à servir la communauté dans laquelle ils veulent grandir. C'est-à-dire dans une communauté qui a ses lois qui sont propres. Chaque communauté a ses lois, ses, voilà, nous on commence à 10h30, il y en a qui commencent à 14h l'après-midi ou à 16h. Bon, c'est, voilà, c'est une loi, c'est une règle. Bon. C'est tout bête, mais il y a tout plein de règles comme ça. Et ces lois sont là pour qu'on puisse être ensemble, au même moment, par exemple. Voilà. C'est le corps de Christ local. Et on doit s'aimer, c'est-à-dire s'accepter, supporter, travailler ensemble et manifester l'amour. Que les gens viennent pour voir qu'il y a de l'amour. L'Église locale se donne aussi des dirigeants, parce que aucun groupe ne peut fonctionner sans qu'il soit dirigé par un groupe. Il se donne des dirigeants qui la conduisent dans la croissance qualitative. Sauf que très souvent, les dirigeants se donnent des objectifs quantitatifs. Et ça, c'est faux. C'est Dieu qui fait croître. C'est pas les dirigeants, c'est pas les hommes, c'est rien. Donc Dieu fait croître, c'est quantitatif. Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc nous, c'est prier, demander à Dieu d'ajouter, et eh bien tout simplement de s'occuper de la croissance qualitative. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'Église, il y a deux types de dirigeants. Deux types. Depuis maintenant un mois, ça a été clarifié. Aujourd'hui, on dispose de deux offices. Office, ça veut dire officine, ça veut dire charge, si vous voulez. Des offices pastoraux spécifiques. L'office de pasteur titulaire, qui a toujours existé et que j'ai exercé, mais que maintenant j'exerce uniquement cet office-là, qui est chargé des décisions à long terme. À long terme, qu'on appelle stratégique. Stratégique, c'est savoir comment est-ce qu'on peut arriver à prendre un lieu, c'est un terme militaire, sans perdre. Vous rappelez, Haï, David l'a perdu. Pardon ? Josué, merci. Josué a perdu Haï. Parce que, après, vous savez, souvent, quand on a des grandes victoires, on a des grandes défaites après. Parce que on se gonfle un petit peu. Jéricho, c'est extraordinaire. Jéricho, tout le monde chante Jéricho, Jéricho, Jéricho. Comme on chante le passage de la mer Rouge. Jéricho, c'est incroyable. Des murs qui font, je crois, je ne sais pas, largeur de cette pièce, 15 mètres, enfin, c'est imprenable. Il est tombé. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a des conseils. Et des conseils, hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Et des conseils. Ah non, non, monsieur, c'est une poignée de milliers et milliers de gens, on va la voir sans problème. Allez, tu envoies une petite délégation, là, ils vont raser. Paf! Pratiquement tout le monde est mort. Waouh! Le sac et la cendre, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, machin, etc. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y en a un qui avait caché le manteau de Chénard, qui était interdit parce que c'était devenu interdit. Vous voyez, le péché. Le péché donne un droit à l'ennemi. Et ça, quand vous n'êtes pas dans l'humilité, que vous dites, bon, ok, on y va, etc., eh bien, vous êtes dans l'orgueil. Je vais y arriver. Non, Josué ne pouvait pas y arriver plus que Moïse, puisque il faut l'humilité. Et donc, ils ont dû s'humilier. 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 Et c'est ce que nous devons faire aussi. Nous humilier. C'est le seul moyen de gagner, les amis. C'est le seul moyen. C'est l'humilité. Donc, ils se sont humiliés. Une fois humiliés, ils ont traité le péché. Une fois que le péché était traité avec Achan, ils sont partis, ils ont gagné. Mais ils ont appris quelque chose. Il faut apprendre dans les épreuves, les amis. Il faut apprendre l'humilité. Que jamais rien n'est gagné naturellement, automatiquement. Ce n'est pas vrai. Jusqu'au bout, nous devrons nous battre dans l'humilité pour nous-mêmes. Notre premier ennemi, c'est nous, c'est moi. C'est moi qui suis mon premier ennemi. Personne ne peut vous enlever votre salut, sauf vous. Sauf vous. Ça, c'est une réalité. Donc, sachez que le Seigneur a dit, « Nul ne vous ravira de ma main, mais si vous, vous voulez partir absolument, eh bien, ça sera possible. » Parce que personne n'est enchaîné avec Dieu. Satan, lui, il enchaîne les gens, pas Dieu. Donc, sachons que dans cette nouvelle saison que nous allons vivre, moi, en tant que pasteur titulaire, je n'intégrerai plus dans l'opérationnel. Et parce que je veux obéir au Seigneur. Mais je serai là pour avoir cette couverture spirituelle de ceux qui sont dans l'opérationnel, parce que je sais que c'est très dur d'être dans l'opérationnel. Et parce que je suis au bout de ma patience avec l'opérationnel, que ça fait des années que je veux le rendre, les gens n'ont pas compris cela, parce qu'ils ne sont pas en situation. Ils ne comprennent pas la charge que ça représente. Moi, je le comprends. Et je sais que la charge repose sur une nouvelle équipe, et Oscar est tout à fait conscient de ça. Mais il ne faut pas avoir peur non plus. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'il faut avoir peur. Le Seigneur donne ce qu'il ordonne, c'est-à-dire qu'il donne la grâce de le faire. Mais il faut des gens qui assurent derrière, et moi, Michel, nous, on va assurer. Donc, l'office de pasteur titulaire cherchait des décisions long terme stratégiques, et l'office de pasteur opérationnel, que j'avais avant et que j'ai donné à Oscar, puisque j'avais deux casquettes, mais je n'ai plus qu'une, mais celle-là, maintenant, est chargée de décisions à court terme, ce qu'on appelle des tactiques. Vous avez peut-être tous vu le mondial, le foot, la tactique, c'est le capitaine. Hein. Celui qui est dans la stratégie, dans les gradins. Voilà, il ne peut pas re-choisir des nouveaux footballeurs parce qu'il s'est peut-être trompé, des champs, etc. Non. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais après, c'est la tactique. Après, il faut mettre les buts. Quoi. Il faut y aller. Quoi. Il faut s'activer. Quoi. Je veux dire, il faut avoir de l'énergie. Moi, je n'ai plus l'énergie. J'ai donné l'énergie que j'avais, et maintenant le Seigneur me demande, ok, mais tu soutiens ceux qui sont sur le terrain. Okay. Mais sur le terrain, il faut y aller. Hein. Il faut marquer les buts. Voilà, je suis un peu illustratif dans mes propos, mais c'est ça. Donc une autre façon de dire la même chose, c'est que l'office du pasteur titulaire, c'est un office apostolique, ce qu'on appelle apostolique. Bon. J'ai accepté ce terme, ça veut dire envoyé par Christ. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps. Donc le rôle qui me revient, c'est de perfectionner les saints. Donc je continuerai à faire de l'enseignement, de temps en temps dans la chair, mais très peu souvent. Mais à côté, j'organiserai des rencontres pour ceux qui veulent être perfectionnés. Et plusieurs me l'ont demandé. Eh bien, pour reprendre la théologie de l'art, pour reprendre tout un tas de choses qui, comme ce matin, sont un peu compliquées pour le commun des mortels, comme la sagesse, eh bien, tout ça, c'est pour perfectionner les saints et édifier le corps. Édifier, ça veut dire construire. Construire la maison, construire, édifier, c'est bâtir le corps. Et bâtir le corps a besoin de bâtisseurs. Voilà, et le Seigneur m'a donné les capacités de bâtir dans le physique, mais aussi dans le spirituel. Et c'est ce que je servirai dans la suite. Donc ça, c'est l'office apostolique qui est pourvu par Christ. Et l'office opérationnel, qui s'appelle aussi exécutif, les Anglais, ils aiment beaucoup ce terme, qui est pourvu de dirigeants ou de gouvernants, donc le gouvernail, ça veut dire du bateau, hein. Ils sont tout seuls hein, sur la mer. Hein. Moi, je suis sur la terre et le bateau, il est en mer. Hein. Il n'y a qu'un seul capitaine, c'est Oscar, bon, avec son équipe. Et donc, ces dirigeants sont nommés par le peuple. C'est là la différence. Ils ne sont pas nommés par Christ, ils sont nommés par le peuple. C'est pour ça, actuellement, ils sont en probation, en attendant que vous les confirmiez au mois de mai. Ils sont nommés par le peuple, parce que les apôtres, ils nommaient des anciens pour diriger l'Église, et c'est les apôtres qui les nommaient, c'est pas Christ. Et donc, cette équipe doit rendre compte à l'Église, ce qu'on appelle l'Assemblée Générale. Donc avec ces deux offices actuellement dans l'Église, eh bien, nous sommes alignés avec ce qu'on appelle le mouvement apostolique porté par Jean-Marc et notre famille spirituelle RNC, mais aussi avec beaucoup d'autres réseaux. C'est un mouvement qui a démarré il y a une trentaine d'années et qui est présent dans le monde francophone, mais aussi dans le monde tout court. Et durant cette année, le Seigneur m'a amené déjà à anticiper ce que le Seigneur allait faire cette année et les années qui suivent. J'ai anticipé à consulter, à voir quels sont les autres réseaux que le nôtre, et avec Jean-Marc, qui forme un réseau interapostolique. Sur la France, il y a un réseau interapostolique. C'est lui-même qui me l'a appris, et il est en contact avec les autres apôtres. Donc, par exemple, le réseau Odos, avec lequel il est en contact avec Alain Caron au Québec, le réseau Newgrounds, avec Nathan Lambert, avec Pascal Bonaz, qui exerce un ministère apostolique en Afrique et en France auprès des églises locales, avec Aurel Vidal, qui exerce un ministère d'évangéliste auprès des juifs messianiques et d'évangélisation en France. Donc désormais, l'Église se dirige vers la constitution d'un centre apostolique missionnel qui est destiné à former et envoyer des leaders dans le champ missionnaire local et en priorité dans les Yvelines et le GPSO. Alors, quels sont les objectifs stratégiques de cette année? Eh bien, c'est de vous faire connaître ces réseaux locaux, qui sont dans la mouvance dans laquelle Dieu veut qu'on aille. C'est mon rôle de mettre à votre disposition des gens qui pensent comme Dieu pense pour notre Église. Donc, c'est Nathan Lambert. Quels sont ceux qui le connaissent? Il y en a plusieurs. Oh là là, il y en a tout plein. Voilà. Il fait partie d'un réseau qui s'appelle Newgrounds. Newgrounds, donc les nouvelles terres, ou Grounds, je ne sais pas comment on traduit ça, avec Kevin Batista. Et Kevin Batista, c'est le Seigneur qui me l'a fait connaître, parce que d'un seul coup, comme je préside la pastorale, il y a 2 mois, je le vois apparaître dans la pastorale, je ne connaissais pas cette tête-là, il se présente, tout ça, je dis, ah bon, formidable, il y a 3 mois, je crois, au mois de septembre. Et je l'ai invité avec Michel, il est venu, on a partagé peut-être 4 heures, hein. Il ne voulait plus partir. Hein. On avait des connexions avec lui, c'est incroyable, incroyable quoi. Il fait une maîtrise de missiologie à la faculté de théologie, et voilà. Et il est en train d'implanter à Rony une église missionnelle, parce que tout est orienté missionnel. Voilà, donc là, ce sont un réseau apostolique local. Et lui, Je l'ai invité donc en février, vous avez le programme, et ça, c'est une date que. Parce que ces gens-là, il leur faut plusieurs mois, hein, parce que lui-même est dans son église et il ne peut pas la quitter du jour au lendemain. Donc voilà, on va le rencontrer pour nous parler de sa vision locale, en tant qu'apôtre, en tant qu'implanteur d'église, implanteur de nouvelles. Et ce qui est intéressant, j'étais un peu étonné que ce réseau Newgrounds en France, celui qui la dirige, c'est le Premier ministre de Guernesey. Guernesey, c'est une île anglo-normande, enfin plutôt anglaise que voilà, et en Normandie aussi. Alors j'ai pas bien compris entre Jersey, Guernesey. Enfin, il y en a qui sont attachés à la couronne britannique, d'autres qui sont attachés au royaume d'Angleterre. Enfin tout ça me dépasse entre le royaume britannique, royaume anglais, tout ça. Enfin bref. En tout cas, il est Premier ministre de cette île et qui est responsable de du Newgrounds francophone. Sachant que celui. Oui? Newgrounds, c'est Grounds, New. Ça fait partie d'une plus grande famille qui s'appelle New Frontiers. New Frontiers, on connaît parce que Michel et moi, on l'a rencontré. Voilà. Celui qui est le responsable de New Frontiers, c'est Terry Virgo. Terry Virgo qui fait Stanley, enfin des rassemblements de plus de 100 000 personnes en Angleterre. Pardon? Tu y étais, Stanley? Voilà. Ah oui, avec ton mari, je crois. Tu as beaucoup aimé. Hein. Voilà. Vous voyez, on a des liens de famille, là. On connaît Nathan Lambert, on connaît Newgrounds, on connaît New Frontiers. Voilà. Et c'est incroyable, quoi. Et c'est à côté de nous, Ronnie. Bah, c'était à côté de Ronnie, Ruben. Voilà. On a des implanteurs d'églises, et nous, on voudrait implanter l'église. Pas uniquement la nôtre, ici, en Bergenville, mais. On a tout un tas d'églises à implanter ici. Hein? Non? Ça ne vous passionne pas d'implanter des églises? Bon, déjà, commençons à faire marcher la nôtre, je suis d'accord. Hein? Mais, pas à pas. Mais il faut avoir une vision, les amis. Si on n'a pas de vision, le peuple périt. Okay? La vision, c'est que le Seigneur bâtit son église. Amen? Et s'il bâtit son église, il est capable d'ouvrir d'autres églises. D'accord? Et. Moi, je me rappelle David Yonguichaud, qui survolait la France, hein, qui était le pasteur de la plus grande église au monde. Il a dit, c'est incroyable, quand on est en avion, on voit des clochers partout, dans tous les villages. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Voilà, ça veut dire que la France, un jour, était chrétienne, mais elle ne l'est plus. Oui. Mais un jour, dans tous les villages, il y avait une église, une communauté. Pas uniquement vide, un bâtiment. Maintenant, pourquoi les bâtiments s'écroulent pas? Parce que l'État les paye. Et il paye plus de 10%. Hein. Bon, c'est encore un paradoxe. En Allemagne, les citoyens allemands, ils payent 10% sur leurs impôts. En France, voilà, séparation de l'Église et l'État, et l'État paye 10% pour entretenir des bâtiments qui ne sont pas utilisés. Ben, vous voyez, c'est la réalité qu'on vit, mais on n'est pas conscient de ça. Mais un jour, dans la France, il y avait des chrétiens, et c'était les rois très chrétiens qui étaient français, qui étaient la Gaule. Et aujourd'hui, eh bien, maintenant, on est dans un pays de doute, à la suite de Descartes. Mais on peut retrouver une église dans chaque village, ne serait-ce qu'un quartier, une rencontre de maison. Ce qu'on appelle une rencontre de quartier. Il faut avoir cette vision, les amis. Il faut avoir cette vision. C'est pas parce qu'on est petit qu'il faut pas avoir la vision du Seigneur. Amen. Vous dites Amen? Je vous oblige pas, hein. La foi, c'était un choix, hein. Moi, je crois que Dieu est capable de refaire ressurgir, eh bien, du sol de la France qui a porté l'activité missionnaire au loin, et eh bien de revenir. Il y a peut-être des Colombiens qui vont nous évangéliser, des Africains, mais c'est pas grave. Ils sont français aussi. Okay? Mais le Seigneur va faire son œuvre. Amen. Et le Seigneur se rappelle de tous les sacrifices qui ont été faits et de tout ce qui s'est passé dans ce pays. Et le Seigneur va rétablir les choses. Donc, Nathan Lambert, Kevin Battista, voilà, ils vont nous parler de leur passion. Ensuite, il y a Aurède Vidal, vous l'avez déjà entendu. formidable. Ils pensent qu'à l'évangélisation, en particulier des Juifs, il a ça dans le sang, cette évangélisation. Il va nous la communiquer. Il a dit qu'il va aider cette Église. Et moi, je n'ai rien demandé. C'est de lui que ça vient. Et il est en plus ami avec Alexis. Ensuite, il y a Daniel. Pardon, je vais un peu trop vite. Voilà. Il y a Daniel Lichty. Daniel Lichty, depuis qu'on est là, Michel et moi, on travaille avec la faculté de théologie depuis le départ, depuis ma conversion, donc il y a plus de 52 ans. Et Daniel Lichty est celui qui porte la vision missionnelle de l'Église, une Église missionnelle. Et il va nous aider, comme il aide Battista, qui est son élève préféré, il va nous aider à devenir missionnel, c'est-à-dire à ne pas être centré sur nous, mais de centrer sur la mission, c'est tout. Centrer sur la mission. Aller par tout le monde. Et être une église qui accueille les gens, pas qui les repousse, qui les accueille. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont repoussés. Bon, mais ça ne va pas durer. Cette église va accueillir, va avoir un aura, je dirais, spirituel, tel que les gens vont venir, parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? C'est formidable, les gens, ils s'aiment, ils sont différents, mais ils travaillent ensemble, etc. Vous voyez, c'est ça qui va se passer, les amis, c'est ça qui va se passer. Sortez de la dépression et allez vers ce que Dieu va faire. Amen. Donc Daniel Lichty va nous aider, et c'est déjà pris pour une visite en février. Ensuite, il y a Steve Fry, c'est un personnage extraordinaire. C'est un pasteur qui est dans le Tennessee, à côté de la grande ville de... Je ne sais plus, parce que lui est dans une petite ville à côté, là où il y a la country music. Là. Nashville, voilà. Et c'est lui qui est venu au point du jour dans les années 90 avec toute une équipe. C'est les francophiles jusqu'au fond de ses tripes. Il est dans les arts, dans la musique, dans la vision. Toi, tu connais Marie-France? Voilà, Steve Fry. Et il est venu aider le point du jour à une époque qui était florissant, flamboyant. Et je suis toujours en contact avec lui. Et il peut venir avec les équipes, etc., nous aider. Il a la vision du royaume et la vision des Messenger Fellowship. Messenger Fellowship, il a créé avec Dan Snead. Et moi, le Seigneur m'a dit, tu vas créer ici l'association des Messengers dans les Yvelines. Ça s'appelle AMY. Et ça, j'en ai déjà parlé à la pastorale, pour que tous les leaders des Yvelines puissent avoir une plateforme d'échange sur l'Église missionnelle. Voilà. Donc, vous voyez les perspectives. Elles sont extraordinaires. Sans parler de l'ouverture de la maison de prière qui va avoir lieu prochainement. Pourquoi? Parce que sans la prière, il n'y a pas de projet possible. Sans la prière. Et ça, c'est un temps de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas juste le mercredi soir. On parle du mercredi soir comme si c'était un haut fait. Non. Ils priaient chaque jour dans le temple. Voilà. Et ça, c'est la vision. Ici, quand le Seigneur nous a dit, vous prenez cette maison-là, elle sera à moi, et je veux y habiter, il a dit, vous en ferez une maison de prière pour toutes les nations. Et c'est ce qui va arriver en 2023. Et je termine par la création d'écoles de transmission de connaissances et d'expériences au lieu de la formation de leaders missionnels. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé, mais j'en parlerai plus tard, qui est de transmettre, en fait, tout ce que le Seigneur nous a appris pendant ces années, combat spirituel, compréhension, etc. En conclusion, et je termine là-dessus, je plaide, les amis, cette année, pour davantage de sagesse. Cherchez, demandez la sagesse, demandons la sagesse et la prière. Sagesse et prière. Pour soutenir la nouvelle équipe opérationnelle, chargée de conduire l'Église dans ses nouveaux projets et devenir une Église tournée vers l'extérieur, vers sa mission, et nous détourner du nombrilisme. Regardons à la croix. C'est la croix qui doit nous aider à être des disciples. Jésus a dit, si vous voulez être mon disciple, celui qui trouvera la vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous voyez, c'est un paradoxe de vie. Il faut perdre notre vie naturelle pour accepter la vie spirituelle. Perdre notre chair pour pour accepter de marcher dans l'esprit. Perdre notre ego pour accepter d'être en Christ. C'est ça notre objectif. Et c'est ce dans quoi je voudrais vous conduire, en tout cas en tant que pasteur titulaire, puisque l'opérationnel sera assuré par l'équipe qui est en place et que je soutiendrai de tout mon cœur pour qu'il puisse y réussir dans cet objectif et que cette église soit différente dans un an et qu'on dira « Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église ? Ah, on ne la reconnaît plus. » Ben oui, c'est ça. C'est ça le miracle de la grâce. C'est le miracle de la puissance du Saint-Esprit. C'est le miracle qui va se passer ici. Je vous invite à la prière. Seigneur, je crois que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et que ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que ta main, Seigneur, dit, eh bien ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et je te remercie pour cette église que tu as suscitée ici, malgré les difficultés. Tu vas la faire entrer dans sa destinée. Et je te remercie pour cela. Et je prie pour tous les amis qui sont là, qui sont derrière les écrans et qui ne sont pas là aujourd'hui, eh bien, qu'ils puissent entrer dans cette destinée. Et je te demande de bénir cette nouvelle équipe opérationnelle, qu'ils puissent, Seigneur, mettre en œuvre eh bien, tout ce que tu leur mettras à cœur pour que cette église soit transformée à la gloire de ton nom. Et que dans cette ville, eh bien, on soit connu comme étant rempli d'amour, de sagesse, et de grâce. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.